48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à tous et à toutes, merci d'être à l'écoute de 48 FM. Aujourd'hui, un magazine, le 91e, spécial liberté d'expression. Vous voyez que ma liberté est déjà un peu entamée puisque ma voix sera éraillée et je m'en excuse déjà. On parlera aussi de sa signification aujourd'hui. Alors, autour de la table, avec nous, des journalistes, mais pas seulement, des enseignants, des bénévoles et des artistes aussi. Voilà, je commence par Caroline Gaillard. Pour Midi Libre, bonjour Caroline.
Bonjour à tous.
Sébastien Banu pour France 3.
Bonjour.
Patrick Zimmermann pour la Lozère Nouvelle.
Bonjour.
Roland Leslin, professeur d'art plastique retraité, et oui déjà, et artiste aussi à 16h.
Bonjour.
Voilà, et Sylvie Cazorla, enseignante.
Bonjour.
Et puis Nathalie Fournier qui est bénévole de l'association, administratrice de l'association 48 FM. Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer cette émission qui a été posée là, effectivement suite aux événements de ces derniers jours, il nous semblait important de parler, de faire un magazine spécial autour de la liberté d'expression. Peut-être redire que cette liberté d'expression, elle est définie dans un texte fondateur qui est celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789. Elle signifie d'abord que toute personne est libre de penser comme elle l'entend, d'affirmer des opinions contraires à celles de la majorité et de pouvoir les exprimer. La déclaration précise d'ailleurs que cette liberté d'opinion s'étend à la liberté religieuse, que chacun étant libre d'adopter la religion de son choix ou de n'en adopter aucune. Mais avant de parler de cette liberté d'expression, il faudrait mentionner d'autres valeurs, qui sont par exemple la liberté d'opinion et la liberté de penser. D'abord la liberté de penser. Je pense que c'est d'abord le droit que chacun possède pour employer comme il l'entend ses facultés réflexives à l'aide de sa raison critique, mais aussi de ses émotions ou de ses potentialités créatrices. Par suite, c'est le droit d'avoir sur tous les sujets, tutelle ou magistère, des idées, des avis, des opinions personnelles, des convictions, et en matière religieuse, de croire ou de ne pas croire, ou de pouvoir changer de croyance. La liberté de penser est constitutive de la liberté de conscience. Alors peut-être tout de suite un son pour illustrer notre propos. Donc un court extrait sonore de l'émission L'invité de TV5 Monde, présenté par Patrick Simonin le 4 avril 2012, dans lequel Cabu parle des représentations et de la liberté d'expression par rapport à la religion, notamment la laïcité.
Le sacré qu'on nous impose, c'est leur sacré, mais c'est pas forcément mon sacré. Il faut qu'ils acceptent aussi... que moi, j'ai le droit de critiquer les religions comme une idéologie comme une autre, vous voyez.
Une idéologie. Une religion, c'est une idéologie.
Pour moi, oui, c'est une idéologie, oui. Oui, oui. Donc, j'ai le droit de la critiquer.
Donc, vous dites, alors, le respect des consciences...
Alors, on respecte, si vous voulez, les croyants qui gardent leur foi dans leur sphère privée. Vous voyez ce que je veux dire. Mais dès qu'on veut utiliser les lois divines pour... changer justement les lois républicaines, ça, on ne peut pas accepter ça.
Voilà ce son. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 rappelle quand même dans son article 10 que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que la manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Oui, c'est justement, c'était un peu notre pré-débat tout à l'heure, juste quand nous préparions un petit peu cette émission, c'était effectivement de se dire qu'il y avait quand même potentiellement à cette liberté d'expression quelques limites.
Alors, ces limites impliquent également le respect d'autrui, ainsi que les propos diffamatoires, racistes, incitant à la haine raciale ou au meurtre, et sont punis par la loi. Elles comportent des limites pour protéger les droits des tiers, notamment le respect de la vie privée, du droit à l'image et des droits d'auteur. On peut y associer aussi à cette liberté d'expression, bien sûr, la liberté d'association, affirmée solennellement en France par la loi du 1er juillet 1901, avec la création d'associations. La liberté de réunion, qui permet à plusieurs personnes de se réunir pour partager des idées ou de soutenir une cause. Et puis, la liberté de manifestation, qui autorise des personnes soutenant une cause ou une opinion à l'exprimer dans la rue. Cette liberté s'accompagne nécessairement de limites afin de protéger l'ordre public.
Oui, on peut considérer que comme libertés fondamentales qui sont garanties par la Constitution française, donc cette déclaration droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, la loi de 80 sur la liberté de la presse, la loi sur les associations, tu l'as évoqué, Nico, également la loi de séparation des églises et de l'État, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, ratifiée par la France en 1974, et la Convention internationale des droits de l'enfant, entrée en vigueur en France le 2 septembre 1990.
Alors, de nombreuses questions se posent aujourd'hui, et c'est peut-être celle à laquelle il faudrait essayer de répondre, peut-être aujourd'hui ou partiellement, en tout cas, avoir vos idées et vos voix. Où en est-on aujourd'hui, après ces attentats du 7 et du 8 janvier dernier ? Y a-t-il en effet prise de conscience de ses libertés et de ses limites ? Caroline Gaillard, vous avez écrit pas mal de choses depuis ces derniers jours. Qu'est-ce que vous pensez de ces questions-là ?
C'est vraiment, je crois, le cœur du débat. Et je pense que si les Français sont descendus si nombreux dans la rue, on sait très bien qu'ils n'étaient pas autant à lire Charlie Hebdo. Mais c'est parce que vraiment, c'est cette question-là fondamentale qui nous est posée à tous. Et je crois que la France et les Français ont montré cet attachement fort à cette liberté en général et à la liberté d'expression en particulier. Je peux dire en tant que professionnel du journalisme, et je pense que mes confrères ne diront pas le contraire, nous recevons depuis jeudi un nombre de témoignages impressionnants. C'est du jamais vu. Alors, c'est très touchant, bien évidemment. Ça nous donne aussi une sacrée responsabilité dans ce rôle-là. On est ses garants de cette liberté d'expression. Et je crois que c'est très important aujourd'hui.
C'est vrai qu'on a vu depuis quelques jours énormément de témoignages. Beaucoup d'organes de presse, de médias, en général, ont été extrêmement touchés. Ont manifesté aussi leur soutien de façon assez radicale et rapide. Pourquoi les médias, la presse en général, se sont sentis comme ça, attaqués et bouleversés, plus que le commun des mortels ?
Je continue à répondre, mais mes collègues le feront si bien, mais je crois que c'est vraiment... alors, c'est l'organe de presse qui a été touché. C'est un organe de presse qu'on a vraiment voulu abattre. Alors, avec ses spécificités, bien sûr, mais c'est intolérable, quoi. Vraiment, être en conférence de rédaction et voir débarquer des gars avec des kalachnikovs et se faire dessouder comme ça, c'est insupportable. Et pour nous journalistes, comme pour le commun des mortels, parce que c'est humainement déjà insupportable.
Peut-être, oui, Sébastien, par rapport justement aussi au positionnement de France Télévisions aussi, qui a réagi très, très rapidement aussi, et puis ton expérience plus personnelle aussi de cette réaction.
Alors, je pense qu'il y a effectivement un ressenti de la part de l'ensemble des journalistes, parce qu'on a l'impression d'avoir été attaqué dans ce qui fait le fondement de notre métier, à savoir la liberté d'expression. Je nuancerai un petit peu, notamment la réflexion des journalistes, la réaction des journalistes, mais aussi celle des Français. On en parlait l'autre jour. Il y a une règle fondamentale aujourd'hui, hélas, qui régit les lignes éditoriales de nos différentes publications. C'est une règle qui est une règle de communication, qui est celle du mort-kilomètre, et qui est celle qui dit que ce qui intéresse le lectorat, en priorité, c'est ce qui le touche directement. Avec Cabu, Wolinski et les autres, ce sont des personnages proches qui ont accompagné les Français pendant 40 ans, qui ont disparu. Pour nous, ce sont des confrères. Pour les Français, ce sont des personnages connus. Et je pense qu'une partie de l'émotion, et qui, je crains, va retomber, soit autant liée à cette proximité avec ces dessinateurs et ces journalistes que avec des principes fondamentaux comme la liberté d'expression. Et c'est pour ça que il ne s'agit pas de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais je pense que c'est une dimension du sujet qu'il ne faut pas occulter, il me semble.
Oui, Patrick Zimmermann.
Patrick Zimmermann.
Oui, je m'inscris tout à fait dans la lignée de ce que vient de dire Sébastien. C'est ça qui est important, parce que ce jour-là, c'est pas simplement quelque chose qui concernait la liberté de la presse qui est mort. C'est une partie de notre histoire commune. Cabu, Volansky, ils rentraient chez nous tous les jours. On les a connus petits au club de Dorothée. Pour d'autres, c'était dans Le Monde qu'on les voyait. D'autres encore au Canard Enchaîné. Ils étaient dans nos vies tous les jours. C'est une partie de notre vie qui est morte. Et c'est pour ça que le symbole dépasse de loin celui d'une simple liberté de la presse.
Alors, cette liberté, malgré tout, on l'a... Bon, l'idée, c'est quand même justement de la défendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va pas aussi un peu trop loin? Et est-ce qu'ils n'allaient pas un peu trop loin aussi?
Charlie Hebdo, vous avez parlé de la loi de 1881, qui est un texte fondamental pour l'exercice de notre métier, qui crée notamment les délits de diffamation, d'insulte. Alors insulte, c'est une contravention. Enfin bon, ça rentrait dans les détails. La limite de la liberté d'expression, c'est la loi. Et lorsque un organe de presse, quel qu'il soit, enfreint cette loi et qu'une plainte est déposée, il est condamné. Charlie Hebdo, pour les caricatures qu'ils avaient publiées du prophète, avait été attaqué devant la 10e chambre correctionnelle de Paris, qui s'occupe de ces dossiers-là, autant que je me souvienne en tout cas, par le conseil du culte musulman.
Mais ça, c'était ils ont été déboutés. Ouais.
Donc la République, c'est ça. Il y a des lois, il y a des magistrats qui les font appliquer. La limite, elle est là, à mon avis.
C'était sur l'idée du blasphème aussi, parce qu'ils étaient attaqués sur l'idée du blasphème. En fait, le blasphème dans la loi n'existe pas.
On ne peut pas diffamer Dieu. Voilà.
Alors peut-être que... Oui, Caroline ?
En tout cas, moi, sur cette question de est-ce qu'ils allaient trop loin, certainement pour certaines personnes. Après, personne n'est obligé d'acheter Charlie Hebdo tous les mercredis. Et que cette marge de la presse satirique puisse exister en France. On a bien vu ces derniers jours qu'elle n'existait pas partout, puisque même certains pays qui ont soutenu et qui se sont dit être des Charlie ont flouté les unes de Charlie Hebdo pour apporter cet appui. Donc on voit bien que c'est quand même une spécificité très française, cette presse satirique qui est née de ces mêmes racines dont tu parlais tout à l'heure, Nicolas, cette révolution française, mais qui existait avant. Hein. Il y avait les Mazarinades. Alors c'était pas autorisé, mais ça existait. Il y a une très très vieille tradition française. Que cette marche puisse continuer à exister en France sans qu'on soit obligé de l'acheter et d'être totalement d'accord, c'est quand même une grande chance que nous avons.
Est-ce qu'on ne confond pas la liberté d'expression des individus et la liberté d'information des publics? C'est-à-dire que ce dont tu parles, en fait, c'est je peux très bien être artiste comme les Roland Leslon ici présent, faire des choses pour moi, pour mon expression personnelle, mais pas forcément les publier. Est-ce que c'est pas ce passage dans l'espace public, de l'espace privé à l'espace public, qui pose problème aujourd'hui en France?
Une démarche créatrice ou d'information, elle est toujours tournée vers l'autre, sinon elle n'a jamais de sens. On ne fait pas pour soi, on fait pour la communauté, on fait pour le partage de l'esprit.
Ou au moins en réaction.
Donc moi, Roland Leslin, qui ex-enseignant, qui peint maintenant, qui a du temps pour... je m'exprime, je suis dans mon atelier. Effectivement, je ne me mets aucune barrière, parce que, bon, moi, j'ai quand même été nourri à Charlie Hebdo, à Rakir Hebdo, et ce sont des gens que j'aimais beaucoup. Mais bon, moi, je prends pas de risque, je suis dans mon atelier, et je peins, je suis considéré comme iconoclaste. Mais je peins, mais je veux montrer ce que je fais. Et quand je montrerai tout ce que je fais, y compris si ça ne plaît pas. Bon, après, c'est sûr que, enfin, j'espère que il y aura pas un crétin qui viendra ni déchirer une toile, ni
attenter à ta vie,
ni crever les pneus de ma voiture ou marquer une cochonnerie dessus.
C'est tu espères ça ou? Quand ça tu le dis, on avait
l'impression qu'on avait avec l'assurance. Non, mais moi, je pense qu'il doit y avoir des, je dois m'auto-censurer parfois, mais je fais en sorte que je réfléchis à ce que je fais et je peins, moi, quand je peins, je récupère des images beaucoup dans la presse, et puis après je m'en sers pour travailler, je les retravaille et tout. Je garde tout, y compris des horreurs, et puis après je m'en sers, et si ça plaît ou ça plaît pas, ben tant pis, je le fais quand même.
Avec une différence, c'est que quand on s'exprime en tant qu'artiste, on s'exprime en son nom. Quand on s'exprime en tant que journaliste, on s'exprime en tant que professionnel de l'information.
C'est pas le même métier. Oui.
Et tout ce que nous on fait paraître dans les journaux, les journalistes, ça doit être quelque chose de vérifié et qui doit encore une fois rester dans le cadre de nombreuses lois qui limitent notre liberté d'expression. Ce qui n'est pas le cas des artistes, heureusement. Heureusement. Et c'est là, je crois, que la différence.
Oui, c'est-à-dire il y a une déontologie aussi qui encadre aussi votre métier et justement ça donne ce cadre aussi de liberté et finalement d'une certaine façon de pas aller sur la confrontation d'une certaine façon.
Une déontologie qui est très vague parce que contrairement aux avocats. Par exemple, nous n'avons pas réussi à nous organiser en tant que profession et nous n'avons pas de conseil de l'ordre. Donc celui ou celle qui manque à cette déontologie, mais quelle déontologie ? Qui définit la déontologie ?
C'est sûr qu'on a un souci sur cette liberté d'expression parce que s'exprimer quelque part, c'est avoir une opinion en tant que journaliste ou en tant qu'être humain, qu'on soit journaliste ou pas quand on s'exprime. Le problème de l'opinion, c'est peut-être d'en assumer, c'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est quand on parle de liberté d'expression, c'est aussi l'exprimer son identité à travers ce qu'on dit. Or, quand on est journaliste, tu viens de dire, on s'exprime pas en son nom. Moi, je pense justement que si, peut-être qu'il manque cette déontologie, et que même si tu travailles pour un journal avec une ligne éditoriale, c'est quand même ta personne, ta pensée, ton opinion, tes idées qui s'expriment derrière. Et on peut se retrouver ou pas à travers ça. Ce que je trouve aujourd'hui un peu difficile, c'est l'idée qu'on puisse s'exprimer sur tout et n'importe quoi, avec des opinions qui ne sont pas, ou des pensées qui ne sont pas pleines et entières, et en plus, on masque son identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, et on l'a vu notamment sur les réseaux sociaux, le vrai problème qui se pose, c'est toutes ces personnes qui s'expriment au nom d'on ne sait pas quoi, et qui en fait n'ont pas d'identité, mais des avatars, quoi. Comme si on refusait. Et le fait d'accepter la liberté d'expression, c'est aussi d'accepter de donner son identité.
Moi, j'allais y venir parce que je crois que à ce débat s'ajoute l'évolution des technologies et de la presse actuellement, qui est en pleine mutation. L'arrivée d'Internet, alors qui n'est pas toute jeune, mais qui est quand même toute récente, a révolutionné complètement les choses. Le débat s'est posé sur certaines images qui ont été montrées à la télé, qui n'étaient pas des images de journalistes, et c'est de plus en plus fréquent. Donc ça pose ce problème-là, justement, parce que quand on est journaliste, on a une certaine déontologie, en tout cas, on essaye en tout cas d'en avoir une. On parle avec... on sait qui on est, voilà. Et cette arrivée massive des réseaux sociaux perturbe complètement tout ça, effectivement, et il y a un vrai débat là-dessus.
En ce domaine, il faut bien spécifier que la liberté a un prix. La liberté a un prix, elle est celle de l'information. Ce prix, c'est celui de l'information. Nous sommes des professionnels quand on fait appel à un avocat, quand on fait appel à un médecin. On a un savoir reconnu par rapport à une personne reconnue qui mérite un salaire. Le problème de l'Internet, c'est le problème de la gratuité, sans reconnaissance de qualité. Payer un journal, c'est payer une information qui vient d'un professionnel. Qu'on lise n'importe quoi, que ce soit Libé, Minute, Le Monde, peu importe, effectivement, chaque média va être coloré, parce que quand on parle d'objectivité, l'objectivité, c'est la chose à laquelle on tend. On n'y arrive pas, parce que si on est à juger un jour, nous autres journalistes, pour nos écrits, on sera jugé en fonction de notre travail fait pour aller vers cette objectivité. La façon dont on a interviewé les gens, est-ce qu'on a tenu compte de la parité et de la diversité des informations ? Tout ce travail de construction, c'est un travail que l'on apprend, que l'on a à notre charge, et que l'on doit respecter. Et en fonction de ça, c'est bien que cette pluralité soit respectée, mais dans le cadre d'une information faite par un professionnel. Le non-professionnalisme aujourd'hui nous tue. Si vous n'avez plus des yeux dans les conflits majeurs du monde, c'est parce que les professionnels n'y sont plus. Quand on fait une photo, elle est orientée. Vous avez tous en mémoire cette photo d'un jeune homme devant un char d'assaut. Elle n'aurait pas pu être faite avec un portable. Elle n'aurait pas été faite par un zappeur ou un blogueur ou un jogger. Elle a été faite par un professionnel qui est là pour ouvrir les yeux du monde.
Sylvie Cazarlois.
Oui, alors, donc du coup, je voudrais intervenir parce que ce qui se passe là dans ce débat est intéressant. Et donc, l'éducation. Hein, que faisons-nous, nous, en tant qu'enseignantes dans nos classes? Et je trouve que le métier de journaliste se rapproche quand même du métier d'enseignant. Parce que le métier de journaliste est aussi un métier de pédagogie. Hein, comment je vais donner cette information? Comme disait Sébastien, justement, sur les sources. Donc nous, en tant qu'enseignants, travailler avec les médias, sur les médias, est pour moi important, primordial. D'autant plus ces jours-ci, avec ces événements qui se sont passés. Alors bien sûr, c'est pas simple. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire travailler sur l'attentat qui a eu lieu? Donc on a des outils au niveau éducation nationale. Donc moi, pendant 7 ans, j'ai été déléguée CLIMI. CLIMI, Centre de liaison d'enseignement des médias et de l'information. Sur le site, on trouve des documents justement qui nous aident.
Sur quel site?
Sur le site du CLIMI, climi.org, qui va aider l'enseignant. Alors effectivement, si on est un enseignant du primaire, un enseignant du collège et un enseignant du lycée, ce n'est pas la même chose. Hein. Quels sont les mots qu'on va trouver pour expliquer et pour que les enfants s'expriment? Donc moi, suite à cet attentat, ce week-end, j'ai travaillé pour faire un diaporama sur le dessin de presse, puisque c'était un peu... les médias parlaient beaucoup de la presse, de la caricature, du dessin. Et mon choix de trouver des dessins de presse qui soient adaptés à des élèves de primaire a été laborieux. Hein, parce que, bon, trouver des dessins de Cabu, de Wolinski, qui puissent passer en classe... Voilà, bon, j'ai quand même beaucoup cherché. Et ça a été...
T'en as trouvé.
Oui, enfin, bon, mais j'en ai pas trouvé de Wolinski, hein, enfin, bon, dans mes recherches. Mais parce que les enfants, ils baignent chez eux, ils ont ressenti l'émotion des parents. Hein, et donc, il fallait vraiment, nous, en tant qu'enseignants, qu'on mette des mots là-dessus. Et mes deux interventions dans des classes de CM2, CM1 ont été très riches. Parce que les enfants ont des choses à dire. Et par rapport au dessin de presse, ce qui est sorti de nos échanges, c'était que le dessin de presse, première fois, on rit. Alors, les enfants, ils rigolaient. Et la deuxième fois, on réfléchit, et là, c'est plus drôle. Et donc, de dire que cette fonction du journaliste était aussi de nous faire réfléchir, et donc, du coup, devenir plus intelligent. Et donc, moi, je remercie les journalistes, et parce que c'est par eux, par les informations qu'ils donnent, qu'on peut aussi nous éveiller, nos élèves, à une conscience, et pour devenir meilleurs citoyens ou citoyennes.
Alors, tu soulignais le site du CLEMI. Il existe aussi, la ministre de l'Éducation nationale, Nadia Vallaud-Belkacem, a écrit à l'ensemble des enseignants en leur rappelant qu'il y avait un site qui s'appelle Eduscol, sur lequel on trouve en fait beaucoup, beaucoup d'informations, et notamment aussi toute l'actualité qui se passe actuellement, hein, avec la liberté de conscience, liberté d'expression, et met en place des outils, justement, pour donner aux enseignants des ressources pour pouvoir en parler avec les élèves. Donc, moi, je l'ai lu, j'y suis allé dessus, un peu comme enseignant avec ce regard-là, mais aussi en tant que parent d'élève. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'outils qui peuvent aussi être utiles pour les parents d'élèves, et ça peut être une bonne chose d'y aller et d'en prendre connaissance. Ça s'appelle eduscol.education.fr. Voilà, pour la partie éducation.
Alors, ça vaut, c'est vrai qu'il y a cette partie nécessaire d'explication en ce moment, mais je pense que ce que tu disais tout à l'heure, Sylvie, ce travail de l'éducation, qu'elle se fasse par les journaux, qu'elle se fasse par quel que soit le média dans le sens large, hein, et je pense que effectivement, hein, l'école a sa place vraiment centrale. On en a beaucoup entendu parler là dans les débats sur. Alors on entend beaucoup, notamment de politiques, dire oui, mais il manque ça à l'école. Mais les politiques sont souvent pas au courant, parce que ça existe. Que ça existe en primaire, ça existe dans les programmes de collège, ça existe dans les programmes de lycée. Et il y a des enseignants qui font très très bien ce travail-là. Alors c'est beaucoup plus facile de dire que ces enseignants sont des feignants et font tout le temps grève. C'est quand même ce qu'on entend généralement. Et on occulte complètement, et les médias ont leur part dans tout ça, mais je crois qu'il y a un travail formidable qui est fait au quotidien par des enseignants dans toute la France, et parfois dans des zones très difficiles. J'ai lu hier le témoignage d'une enseignante du 9-3 sur ses explications qu'elle a données vendredi à ses élèves. C'était poignant, et elle conclut en disant que les enfants sont intelligents et qu'on n'utilise pas assez cette intelligence. Et je crois que c'est vraiment ça, la clé. Et je pense que ces événements qu'on vient de vivre, c'est une part d'obscurantisme, et face à l'obscurantisme, le meilleur rempart, c'est le savoir, c'est l'éducation. Donc effectivement, je crois que vraiment, ce sont deux métiers fondamentaux dans tout ça, dans ce débat-là, en tout cas, quoi.
Victor Hugo disait « La liberté commence ou l'ignorance finit ». Voilà, c'était...
Comme dans tout mal, il peut y avoir du bien. Moi, j'ai souri largement en entendant à plusieurs reprises ce type de réflexion. Ah ben, on voit, hein, ces fonctionnaires qui font rien et qu'on paye trop. On était content de les avoir ce jour-là, tous. Et si on en est arrivé là, c'est à cette résolution de crise. La première crise, c'est bien grâce à un effort de la base, de ceux qui apprennent jusqu'à ceux qui sont là pour la répression ou pour sauver la loi. Ça a été magnifique. Et tant qu'on est au remerciement, je veux passer un vibrant, vrai, grand et merci à tous les Lausériens. Parce que là aussi, c'est passé par là. On l'a vu sur les dernières manifestations de samedi et dimanche. Parce qu'on parle beaucoup de droits. Mais on parle très peu de devoirs, et les Lausériens ont été là pour relever leurs devoirs. Les manifestations qu'on a vues dans le département, d'abord, elles ont été beaucoup plus importantes que dans les autres départements. Il y en avait plus de 10, ce qui fait que la Lozère était classée rouge, c'est-à-dire avec beaucoup plus que les autres. Et puis, ces manifestations, ces rassemblements, ne sont pas nés d'un appel ou d'une récupération. C'est souvent un habitant dans un quartier qui a été à la base, et grâce à la magie d'Internet, a pu rallier à sa cause d'autres amis, d'autres voisins, pour quelque chose de pur, de vrai. Et quand on parle de nos devoirs maintenant, le challenge pour demain, il va être de continuer à assumer nos devoirs sans se faire récupérer.
J'espère que vous allez élargir le débat, parce qu'on est dans une période de crise, ou un moment en tout cas, mais enfin, cette liberté de la presse, elle est au quotidien. Et c'est peut-être parce qu'on a oublié, alors je parle de liberté de la presse, mais il y a toutes ces autres valeurs aussi, sur lequel on a tendance à faire un peu de compromis tous les jours, parce que c'est plus facile, parce que... Enfin, je me mets dans l'eau, hein, parce que c'est plus facile, et je pense qu'il y a des petits détails au quotidien, et j'espère que ça sera un peu l'électrochoc de ce moment clé, ces petits détails au quotidien qu'il ne faut pas laisser passer, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience aussi du monde des médias, du poids de ce qu'on écrit, du poids de ce qu'on dit, du poids de ce qu'on lit? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène d'autocensure dans les médias? Bon, on sait qu'on n'écrit pas tout ce qu'on voudrait, ou on se limite à la ligne éditoriale, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience de cette censure? Est-ce que quand on est un journaliste et qu'on reçoit des courriers, qu'on reçoit des écrits sous toutes ses formes, est-ce qu'on n'est pas amené à se poser ces questions-là au quotidien? Et est-ce que les choix que vous faites sont les bons? Alors je parle à la presse et les médias en général, mais cette censure, est-ce qu'elle, depuis quelque temps, n'était pas de plus en plus importante? Est-ce qu'on prend pas moins de risques, finalement?
Malheureusement, j'allais dire non. Il faut faire une différence entre deux presses. Il y a la presse de proximité qui va épargner ses lecteurs, parce qu'on vit avec eux, nos auditeurs, nos lecteurs. Et puis, il y a cette presse internationale qui, des fois, rippe sans même s'en apercevoir. On l'a vu, là, sur la crise, on l'a vu clairement, des journalistes qui interviewaient des otages par téléphone, alors que les preneurs d'otages ne savaient pas qu'ils étaient otages. Là, on va trop loin.
Il y a, enfin, ce que dit cet excès, qui est extrêmement condamnable, c'est aussi que les journalistes sont des salariés, qui travaillent dans des entreprises, qui sont des entreprises de presse, mais qui sont des entreprises. Ces entreprises doivent vendre du papier ou des écrans de publicité pour fonctionner et payer leurs salariés. Pour pouvoir fonctionner et payer leurs salariés, il faut qu'ils fassent des recettes. Et des recettes, ça veut dire vendre, tout simplement. Donc la liberté de la presse, elle s'est gagnée en s'affranchissant de la tutelle politique grâce à l'argent du privé, grâce à l'argent de la publicité. Et c'est un mouvement qui a existé. Moi, je travaille à France Télévisions, l'ORTF, c'est pas si vieux que ça.
C'est quoi, c'est 75 ?
Oui, à peu près. Ouais. Donc ce grand mouvement de libération, en tout cas de l'audiovisuel, mais ça a été le cas pour la presse écrite dans les années 30 et puis après-guerre, c'est grâce à l'argent de la publicité et des ventes. Aujourd'hui, on est dans une deuxième phase qui dure, hélas, qui est celle de, si on n'écrit pas ce que les gens veulent lire, les articles plus courts, des faits divers, du sport, qui sont les principaux taux de lecture, enfin, Caroline et Patrick pourront peut-être le confirmer, on ne vend pas de papier. Et d'ailleurs, la presse est en crise, Charlie Hebdo était en train de mettre la clé sous la porte, la presse quotidienne régionale était en crise. Donc, il y a une responsabilité des journalistes sur les contenus et sur les attitudes qui sont celles qu'on a pu voir ces derniers jours. Mais j'ai envie de dire, et bon, c'est peut-être un peu provocateur, on a la presse qu'on mérite.
C'est bien que là. Comme on a les élus qu'on mérite. Exactement, voilà, je suis tout à fait d'accord. Et, alors, contrairement à Patrick, je ne crois pas qu'il y ait justement. Je ne crois pas que ce débat-là soit sur la presse de proximité et l'autre. Enfin, ou les autres, parce qu'il y a vraiment des rayons d'éloignement de la proximité très, très large.
C'est évidemment de la provoque.
Oui, bien sûr, mais je crois que le débat, il est important quand même là, parce que on peut avoir des soucis en presse de proximité sur cette liberté de la presse, comme nos confrères sur un conflit lointain, quoi. Hein. Je pense que le débat, il existe partout, et cette autocensure et ouais. Cette censure, elle existe c'est aussi partout.
Voilà. De la Syrie, bien sûr. Oui, je disais, c'est la raison pour laquelle on parle plus de la Syrie, de la Libye et de tous ces conflits qui sont extrêmement liés à la situation que l'on traverse. C'est parce que la plus mauvaise vente du monde de l'année dernière, c'est une sur la Syrie. Les meilleures ventes du monde ou d'autres journaux, ça va être Trier Weiler et son livre, ça va être ces choses-là, vous comprenez ?
Oui, mais est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue ? C'est-à-dire que à suivre ce...
C'est un constat que je fais. Hein.
Oui, j'ai bien compris. Oui. Moi, j'ai le sentiment qu'à force de tirer vers le bas, parce que quand on dit ça, en fait, c'est qu'on fait un constat d'échec, malheureusement. C'est qu'on se dit, on va donner à lire ou à entendre ce que les gens veulent. On sait très bien que dans le monde de l'éducation, on ne donne pas ce que les enfants veulent. On leur amène des savoirs et des connaissances, et surtout, on leur amène le libre arbitre pour leur permettre d'aller chercher l'information. Or, aujourd'hui, à force de diminuer l'information, de faire des textes très courts, il manque une information qui est essentielle. Et de ce fait, les gens ne lisent de moins en moins, zappent ce que tu disais sur ce constat-là. Mais moi, je pense que c'est parce qu'on en est là, finalement, que les gens n'ont plus de libre-arbitre et comprennent de moins en moins le monde, comment il fonctionne.
Moi-même, je travaille pour le service public, donc a priori, je ne suis pas contraint, bien que ce soit un peu le cas là, en ce moment avec la suppression de la pub, mais je ne suis pas contraint de faire plus de faits divers ou de sport pour arriver à un résultat d'audience. D'ailleurs, ce n'est pas dans ce sens-là que je travaille. Moi, je ne suis pas directeur de chaîne, moi, je suis journaliste, je suis là pour donner une info. Mais il ne faut pas nier que la crise sans précédent que traverse la presse aujourd'hui, elle est liée à cette désaffection des lecteurs. Et pour survivre, pour rester sous perfusion, les médias jouent des cartes qui fonctionnent. Pas que, mais ils jouent des cartes qui fonctionnent.
Ouais, à court terme. À court terme, parce que... Alors, pour aller dans ton sens, c'est vrai que Kabu disait que Charlie Hebdo était quand même en cessation d'activité quasiment et qu'ils avaient perdu au fil... du temps énormément de lecteurs, quoi. Donc, c'est vrai que ça va dans ton sens. En même temps, ça permet.
C'est des chiffres simples. Aujourd'hui, le premier quotidien français, c'est l'Équipe. Avec un peu moins d'un million de tirages par jour. Je crois que Le Monde, c'est 130 000 par jour, c'est ça ? Je sais pas combien. Le Midi Libre, ça fait combien ? 130 000, c'est pareil que Le Midi Libre. Voilà, le journal de référence qui traite de l'international dans ses premières pages de manière quasi idéologique, parce qu'il continue à le faire malgré la crise, c'est 130 000, l'Équipe 1 million. Voilà.
Et il y a 10 ans, c'était combien ?
Et l'Équipe va pas super bien. Hein. L'Équipe est en baisse. Ça reste le premier quotidien de France, mais avec des difficultés aussi.
Oui, mais c'est sûr, je crois que l'arrivée des nouveaux médias n'est pas pour rien. Hein, la presse écrite, les jeunes ne lisent plus. Enfin, les jeunes se branchent sur Internet et lisent souvent la presse sur Internet. Hein. Et je crois que c'est important aussi de faire un travail pour comprendre un peu justement que la presse écrite, c'est aussi, enfin, les médias, c'est une entreprise. Et comme toute entreprise, il y a des financeurs et que les journalistes, ils peuvent aussi pas faire tout ce qu'ils veulent. Et ça, il faut vraiment que dans les classes, ben, au niveau de nos élèves, faire comprendre ça. Et que quand même, le métier du journaliste, c'est un métier d'investigation. Et si on donne les moyens à ces journalistes de faire vraiment ce métier d'investigation, pour avoir des informations plus précises, les sources, et c'est vraiment notre mission en tant qu'enseignante, parce qu'on le fait pour d'autres choses, et pour un exposé à faire, on va vérifier ces sources, et pas simplement Wikipédia. Et donc ça, les journalistes, c'est ça, on va chercher les sources.
Juste pour rebondir sur le débat sur la question de la presse aussi sur Internet, parce qu'il y a effectivement aussi aujourd'hui des pure players qui vont avoir soit des messages et des positionnements qui peuvent être un petit peu plus marqués par rapport à, on peut citer Mediapart, Rue 89, qui vont avoir des positionnements, etc., un peu poussés, et puis aussi des sites qui finalement vont apporter aussi de l'analyse qu'on retrouve peut-être plus forcément dans les autres médias classiques. Enfin voilà, si on prend Slate, si on prend les décodeurs du Monde par exemple, on est aussi dans un, il me semble, enfin après vous me direz ce que vous en pensez, mais dans des contenus qu'on retrouve pas forcément dans les médias, alors peut-être plus dans la presse magazine, peut-être encore ces aspects-là, mais en même temps les titres, c'est l'immobilier, les francs-maçons et l'immobilier.
Ça, c'est le point, ça.
Voilà, oui, non, mais bon, c'est l'Obs, l'Express, etc.
Pour suivre ce que dit Sylvie, est très important, et surtout, la vérité n'est pas unique. L'essentiel, c'est la pluralité, et d'aller pêcher ses sources à différents points. Ça, c'est capital. L'autre chose qui est capitale, je reprendrai Jean-Marie Jeannonnet, qui est la personne qui a créé le réseau France Bleu. Il n'y a pas des bons ou des mauvais journaux. Il n'y a pas de médias, pas journaux. Il y a des médias adaptés ou pas. Le support, il importe peu. Le principe, la substantifique moelle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et que ce soit apporté de façon professionnelle.
Très bien, merci pour cette intervention. On va se faire une petite pause musicale. Entre-temps, je voulais vous dire qu'on abordera dans la deuxième partie l'aspect de « on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde », comme disaient des proches. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à rire de tout comme moi j'aurais voulu, rire de tout avec tout le monde?
Mais Caroline Gaillard du Midi Libre a une blague qu'elle a préparée justement pour tester les auditeurs.
Très bien. On se retrouve tout de suite après. On se retrouve tout de suite.
Motivé, motivé, il faut rester
48 FM Le Mag.
Voilà, deuxième partie de notre émission spéciale sur la liberté d'expression. On parlait de ce que disait Pierre Desproges, notamment dans cette fameuse phrase où il dit « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Alors peut-être avant de réfléchir ensemble à cette problématique, je vous propose qu'on écoute l'avis de Cabu, justement, toujours extrait de la même émission de TV suite à l'apparition de son livre « Peut-on rire encore de tout ?» Voilà, dans lequel il parle de code et d'autocensure. Donc toujours cette émission présentée par Patrick Simonin du 4 avril 2012.
J'ai gagné quand même quelques procès au nom du droit à la caricature reconnu par le président du tribunal, mais... on a affaire à des gens qui n'ont pas cette culture de la caricature. Vous voyez, je parle des intégristes fondamentalistes.
Ils ne comprennent pas, on va dire, le deuxième, troisième, quatrième degré qui permet de rire finalement des choses.
Ils ne comprennent même pas qu'on puisse représenter Mahomet. Alors, d'ailleurs, c'est une interprétation, justement, qui leur est personnelle à ces gens-là. Parce que il paraît que nulle part dans le Coran, il n'est prescrit de ne pas dessiner Mahomet. C'est eux qui ont inventé ça.
Enfin, donc il y a, on dirait, Cabu, de l'autocensure. C'est-à-dire que vous-même, exactement, vous décidez de ne pas dessiner.
Voilà, il faudrait, comme vous dites, exercer de l'autocensure. Et on ne peut pas faire ça.
Donc vous ne le faites pas, en fait.
Non, non.
Vous résistez.
On résiste, voilà, c'est vrai. Et on veut pouvoir critiquer la religion musulmane comme on a si souvent critiqué la religion catholique avec le Vatican. Hein, oui. Vous rappelez toutes les couvertures qu'on a faites contre le pape.
Voilà, il faut rire de tout. Le blasphème n'est pas interdit, dit Cabu. Mais on peut le faire avec tout le monde. Voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde? Est-ce qu'on, comme il l'explique, cette autocensure, elle ne nous guette pas aujourd'hui plus qu'hier?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux, là, quand même, parce que peut-on rire de tout avec tout le monde? Quand on est face à quelqu'un... Oui, pardon. Quand on est face à quelqu'un, et je sais pas, moi, par exemple, quelqu'un qui a une religion qui est très, très, très... Allez, qui est bien, bien dans sa religion, on va effectivement, humainement parlant, on va essayer de pas faire de blagues qui le provoquent, qui le vexent. Après, un journal, c'est public. Un journal, on le lit ou on ne le lit pas. Donc pour moi, c'est pas du tout la même chose. Je considère qu'à partir du moment où on touche un minimum à cette liberté d'expression, ça peut pas faire, quoi. ça peut pas faire. Personnellement, j'ai été choquée par des dessins de Charlie Hebdo. Hein. Moi, ça, il y en a qui m'ont dérangée. Je vais pas dire l'inverse. Hein. Sauf que Charlie Hebdo, moi, ça fait 40 ans qu'il me façonnait. Mais les dessins qui m'ont dérangée. Soit c'était parce que je l'ai trouvé trop violent et que c'est quelque chose qui me pose un souci personnellement, soit tout simplement parce que ça pointait le doigt sur quelque chose qui me dérangeait et qu'on vivait actuellement en société. Donc tout ça, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à réfléchir, mais jamais personne m'a obligé à regarder ces dessins-là. Et jamais j'en ai voulu à qui que ce soit de m'avoir montré des... Enfin, de m'avoir laissé la possibilité de voir des dessins qui ne me convenaient pas. Je tourne la tête si ça me va pas.
Puis moi, je voudrais dire aussi que l'humour, c'est lié à la culture. Parce que comment comprendre un dessin de presse ou des blagues ou un humour si on n'a pas les clés? Enfin, moi, c'était vraiment hier, je l'ai bien vu avec les élèves, quoi. Premier dessin, s'ils n'ont pas les clés, ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. Donc l'humour, c'est aussi de la culture.
Oui, là, tu fais référence un petit peu au dessin où on voit donc le prophète qui dit « c'est difficile d'être aimé par des cons ». C'est vrai que
il y a vraiment un premier et un deuxième degré. Si oui, on n'a pas les clés du deuxième degré, on peut pas rire de tout avec tout le monde, effectivement.
C'est donc un problème d'éducation, de niveau de lecture, c'est-à-dire comment on donne à regarder, à expliquer les choses. Est-ce que là-dedans, justement, est-ce qu'il n'y a pas un vrai travail à faire? Alors, au niveau de la presse, au niveau de l'éducation, mais je pense que tout ça, en fait, c'est lié à sa culture personnelle, au fait qu'on va chercher de l'information, qu'on essaie de comprendre comment le monde fonctionne. Après, au-delà de ça, on est dans la sphère privée dont tu parlais, de la sphère publique. Quand on attaque le prophète, on n'attaque pas la personne qui est de cette religion, quoi. On attaque globalement la religion.
Dit tout à l'heure.
Et pourquoi les gens se sentent attaqués, ça, c'est une autre question.
Et alors, et pour bien montrer que ce débat ne touche pas qu'une communauté. Hein. Quand il y avait eu les JMJ fin des années 90 à Paris, Charlie Hebdo avait eu quelques unes avec le pape qui était Et les jeunes catholiques s'étaient révoltés contre ces unes de Charlie Hebdo. Donc c'est vraiment, quand, ce que tu disais Nathalie, je pense que quand on a une foi personnelle, on perd peut-être un peu le recul nécessaire pour rire de tout, justement.
Ah ben on regarde pas.
Et on lit plus tout. Hein. Il y avait le décryptage de cette une de Mahomet se tenant la tête et avec des jeunes élèves musulmans. C'est très compliqué s'ils n'ont pas les clés.
Alors il y a des enseignants qui ont présenté... Hein.
Il faut à tout prix le faire. Voilà. Celle-là, celle du pape.
Et le premier niveau de lecture des élèves n'était pas du tout celui qui était
porté.
Les
musulmans s'en déconnent, c'est pas du tout
voilà,
ça que
ça,
disent des
saints. Voilà, c'est pas du tout ça.
Mais c'est vendredi matin sur France Inter, il y avait une enseignante qui témoignait et qui disait, donc elle était dans un collège en ZEP en région parisienne, et elle disait « Bon, mais moi, quand ils sont rentrés vendredi matin, mes élèves dans la classe, je leur avais mis tous les dessins. Voilà. » Et effectivement, les jeunes qui étaient de confession musulmane ont très mal réagi, se sont complètement fermés. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, j'essaie de réfléchir à ce que ça peut lui faire éventuellement. Hein. Et je sais pas si sur cet exemple précis, si la solution était la bonne. Je pense qu'à sa place, je leur aurais dit OK, vous voulez pas aller voir les dessins de Mahomet. OK, ben vous vous tournez, mais par contre vous continuez de discuter avec nous de ça. Et elle les a forcés à regarder ses dessins. Et j'ai écouté son témoignage jusqu'au bout. Et j'avoue que ça m'a rendu un petit peu perplexe quand même sur la façon de traiter les choses, y compris dans nos classes aujourd'hui. Quoi.
Il me semble quand même qu'il y a une nuance à apporter à ce qu'on dit. Le fait que des musulmans ne veulent pas voir des caricatures du prophète, c'est un fait. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les voir qu'on va avec une kalachnikov.
Bien sûr.
Tuer des gens. En l'occurrence, les gens qui sont allés tuer les dessinateurs, c'est autre chose que des musulmans lambda. Ce sont des gens issus d'une secte qui sont à la limite, voire carrément dans la folie. Donc c'est ça. Je pense que si on allait au séminaire ou dans les foules des JMJ avec les dessins montrant le pape avec de jeunes catholiques qui ont fait la une, hein, à plusieurs reprises de Charlie à l'époque où il y avait des grands problèmes dans l'église de ce type-là, je suis pas sûr que les réactions soient si différentes que celles rapportées par cette enseignante vendredi.
Non mais moi les réactions ne m'étonnent pas du tout, et ce qui me dérange c'est qu'elle y soit allée aussi abruptement sur une actualité qui était très chaude, qu'il y a quand même une notion de progressivité à intégrer. Comme disait l'enseignante qui nous a quittés tout à l'heure, on n'est pas tous équipés du second degré, tout simplement. Donc à un moment donné, on s'adapte, quoi. On s'adapte pour faire passer les choses et on y va progressivement.
Sébastien est au cœur du problème. C'est là où il va falloir faire attention aujourd'hui. Il ne faut pas d'amalgame. Il faut voir exactement qui répond et comment. Et là, en l'occurrence, dans tous nos milieux modérés, de quelque obédience qu'il soit, je vais parler d'obédience plus que de religion, puisqu'il y a aussi des obédiences laïques, tout le monde est bien d'accord, un dessin, c'est pas grave. Un dessin, c'est un dessin, et on ne va pas se venger en tuant une mouche avec une arme atomique. On est entre personnes raisonnées, et toutes ces personnes raisonnées ne posent pas de problème, parce qu'on a tous ce sens de travailler et de vivre en commun. Maintenant, par contre, il y a ces extrêmes, et moi, ce que je retiens dedans, c'est encore une fois le bon qui peut naître de tout ça, et je vois que la communauté musulmane est en train d'aller même au-delà de ses limites, de façon à pouvoir construire, pour la première fois, on va essayer certainement d'avoir un, on ne peut pas dire conseil du culte, mais en fait, quelque chose qui va représenter la rectitude pour pouvoir dire, nous, là, on est vraiment des musulmans. Les autres qui font ça, ça n'est pas des musulmans. Et si toutes les religions peuvent faire à peu près la même chose pour un peu faire la part des choses entre le bon et le mauvais, et ben, ça y est, on est sur la bonne voie. On va pouvoir rire ensemble.
Moi, ce qui m'inquiète dans ces propos, c'est si vous voulez, c'est que la sphère privée interfère avec la sphère publique. Voilà, c'est que personnellement, quand on est dans une société, quand on est dans un pays, dans une nation, dans un État, on respecte l'État, on respecte en fait ce qui nous fait le vivre ensemble, et pas du tout, on n'essaie pas d'imposer sa vision du monde ou de notre société à travers une idéologie, une doctrine, une religion. Et je trouve qu'on fait, on laisse trop la place à ça. C'est que quand on est citoyen français, qu'on soit laïque, qu'on soit protestant, qu'on soit catholique, qu'on soit musulman, peu importe. Pour moi, il y a eu, lors des événements des manifs contre le mariage pour tous, j'ai le sentiment, au fond de moi, qu'il y avait un certain manque de liberté d'expression de tous ces gens qui veulent vivre en couple de même sexe. Et quelque part, il y avait une récupération qui était de la sphère privée, une récupération politique aussi, mais d'abord une récupération de ces mouvements religieux qui n'acceptent pas des changements de société. Et sans faire un amalgame entre tout ça, je pense qu'il y a quand même, entre ceux qui ont défilé dimanche, samedi, dimanche, etc., c'était les mêmes. Il y a ceux qui étaient dans la rue contre le mariage pour tous et qui étaient aussi là pour la liberté d'expression. Et donc, quand on est pour la liberté d'expression, quand on est pour la liberté de pensée et d'opinion, ce qu'on explique depuis tout à l'heure, c'est bien qu'il y a... c'est qu'on peut pas faire deux poids deux mesures, c'est qu'on peut pas être contre à un moment donné simplement parce que notre religion nous interdit de penser qu'on puisse s'aimer et qu'on soit de même sexe.
Mais et dans le débat, enfin, vous venez de dire tous les deux qu'on soit d'obédience ou de, mais il faut pas oublier qu'au-dessus de tout ça, la République est laïque. Voilà. Et je crois que c'est ça le quand même le fondement. C'est-à-dire, on n'est pas d'obédience laïque, la République est laïque. Mmh. Et cette laïcité permet à chacun dans sa sphère privée d'avoir la religion ou pas qu'elle souhaite.
Et de revendiquer lors de manifestations son désaccord avec une loi, celle du mariage pour tous, comme une autre. Hein.
C'est une expression.
Dans l'expression collective, c'est...
Donc, juste pour revenir, je ne suis évidemment pas dans l'amalgame. Si j'ai parlé de cette situation, c'est tout simplement parce qu'elle a eu lieu vendredi matin et qu'on était sous le coup de ces ententes-là, bien évidemment. Mais moi, ça me pose la question, justement, de la laïcité à l'école. Et ça, j'aimerais qu'on en parle, parce que c'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment y aller de manière progressive, parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, dans l'école publique, la laïcité soit réellement respectée. Au sens où, ici, on ne parle pas de religion, la religion fait partie de la sphère privée, par contre, on ne la dénigre pas non plus. Et ça, j'aimerais qu'on s'interroge là-dessus.
Moi, j'ai une conception un peu différente. La laïcité, c'est la base de tout. La laïcité, c'est quoi? C'est avant tout le respect de l'autre et la compréhension et le respect de chaque composante de ce qui fait de nous des êtres individuels dans une communauté. C'est-à-dire que moi, je respecte autant la religion chrétienne, catholique, que musulmane, que juive. C'est pour ça que je peux me dire laïque. Sans cela, je ne suis pas laïque.
Avec la difficulté aussi de considérer la laïcité comme une religion. Et je crois aujourd'hui que les hussards de la République du début du siècle, où il y avait un enjeu, parce que la séparation de l'Église et de l'État, la Révolution qui était encore proche, etc., devaient mener peut-être ce combat. Aujourd'hui, je me demande si dans une société multiculturelle comme la nôtre, où autant de questions se posent sur le fait religieux, la religion n'aurait pas sa place à l'école, pas en tant que pratique, mais en tant que matière, comme l'histoire...
Mais la religion est enseignée déjà.
Oui, mais enfin...
Elle est enseignée, non.
Mais quand et comment?
Elle est enseignée dès le primaire,
hein, à l'école. Elle est enseignée dès le primaire, et au collège, et au lycée. Alors peut-être pas assez, mais ça existe. Et enfin, vraiment, trop de gens pensent que justement, ça n'a plus cours à l'école, et c'est pas vrai.
Oui, mais attention aussi, à force de s'arc-bouter sur des vieux lieux communs, on risque les clivages. Aujourd'hui, on en est plus. Si on regarde le droit français aujourd'hui, un curé qui marierait avant un officier d'état civil, il va 30 ans en prison. On parle, et c'est très bien, de repas dissociés pour les gens qui sont musulmans, pour ne pas avoir du cochon à la cantine. Est-ce qu'il y a du poisson le vendredi? Non. On peut pas s'arrêter aux particularismes comme ça. Par contre, il faut les prendre en compte pour les respecter. C'est différent. Et c'est pour ça que la laïcité n'existe que dans la compréhension de l'autre et dans l'acceptation de l'autre par toutes ses composantes.
Ce matin, Fillon, sur France Inter, il reparlait de l'uniforme à l'école, hein, juste pour mettre tout le monde au même niveau.
Oui, mais alors là, tous ceux qui ont vécu mai 68 vont hurler. Pourtant, la situation n'est plus la même, la société n'est plus la même, les gens ont évolué.
Ça voudrait dire que pour pour rendre tout le monde identique, on leur donne la même image, mais la liberté d'expression, c'est pas simplement une image, quoi. C'est pas simplement l'image qu'on donne de soi-même.
Non, puis c'est pas vrai de toute façon. Tout le monde
n'est
pas pareil. Et puis d'uniformiser
les choses, ça rend pas une société plurielle. Hein.
Imaginez ce monde où on est tous les mêmes idées, où on est tous les mêmes valeurs, où on veut tous la même chose. Mais ça serait triste.
Oui, justement. Enfin, alors on peut tirer sur un certain nombre de des grands concepts finalement, que ce soit la devise européenne, hein, unie dans la diversité, hein, et c'est aussi aujourd'hui ça aussi. Hein, c'est ces diversités-là qui font aussi notre union d'une certaine façon dans un pays, dans une organisation européenne, etc. Et puis, mais c'est aussi, c'est finalement ces grandes valeurs de la République qui sont ressorties. Alors là, on a beaucoup parlé de liberté, mais au final, c'est aussi cette tolérance, donc derrière aussi,
et voilà,
cette fraternité, c'est bien aussi d'une certaine façon ce qui s'est manifesté ces derniers jours de façon très palpable, et ce qui était quand même un élément vraiment marquant aussi de ces rassemblements, qui étaient effectivement pas des
ce besoin de se sentir ensemble et se sentir
appartenir à quelque chose
d'unique et de plus grand qui dépasse tous ces clivages, c'est ça.
Et on est bien d'accord que tous les Charlie dans la rue, les presque 4 millions de Charlie, on n'est pas tous les mêmes, et heureusement, c'est quand même ce qui fait la richesse de notre
singularité.
Pays et de l'humanité.
Moi, je remplacerais bien dans notre devise fraternité par équité. C'est facile de dire je suis ton frère. Le prouver, c'est plus difficile. Et là, c'est ce qu'on a vu, et c'est ça, cette prise de conscience de nous autres Français aujourd'hui. Je suis Charlie, je suis juif, je suis musulman, je suis toi. Et je suis toi parce que tu es en danger. Ça, c'est plus difficile de s'engager comme ça que de dire tu es mon frère.
Enfin, ça fait appel à d'autres notions, la fraternité, hein, que voilà. Moi, je n'irai pas sur ce sujet-là. Je referai pas la devise de la nation. Il y a des gens beaucoup plus illustres que nous qui ont réfléchi, hein, voilà, à construire cette République. Je pense que la République, elle a besoin effectivement de toutes ces singularités dont nous faisons tous partie, avec nos parties privées idéologiques et puis nos parties publiques. On a parlé, comme vient de le faire Guillaume, de la tolérance. C'est peut-être ce mot-là, enfin, peut-être le mot de la fin, mais en tout cas, de tolérer les idées des autres, les opinions, les pensées, les formes de pensée et les formes d'expression. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce que tu vas écrire demain sur la Lozère Nouvelle.
Non,
on a le droit aussi de te le dire. On a le droit...
d'en débattre.
Voilà, d'en débattre, mais calmement, avec sérénité et avec fraternité.
C'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Et c'est pour ça que l'équité passe avant. Parce que c'est ça, être équitable, c'est concevoir l'autre, lui permettre et le comprendre, et surtout s'ouvrir pour essayer de comprendre.
Voilà, bon, ce sera peut-être pas le mot de la fin, non.
Je voulais bien la blague de Caroline.
Oui, j'allais le dire.
Ah, peut-être pour finir la blague
avec Caroline. Je l'ai faite à l'oreille de Sébastien.
Des grands esprits.
Ouais. On vous remercie en tout cas d'être venu. On espère que ce débat vous aura ouvert un petit peu l'esprit, en tout cas vous amène à réfléchir dans vos pratiques au quotidien, quel que soit le métier que vous exerciez, ou même si vous n'exercez pas.
Et achetez Charlie mercredi, mais voilà. Achetez la presse régulièrement, c'est quand même aussi ce qui nous sauvera.
Voilà, lisez, instruisez-vous,
et réagissez, enfin aujourd'hui les médias aussi vous permettent de réagir, réagissez si vous n'êtes pas d'accord.
Intelligemment,
bien entendu. Il faut pas insulter le journaliste qui a écrit son papier, mais vous avez cette possibilité qui est offerte. Utilisons-la de façon, en étant effectivement, en respectant les gens, mais utilisons ces places qui sont ouvertes. Au
c'est
débat,
droit de réponse.
C'est droit de réponse. Oui, alors il y a le droit de réponse, mais même
ne
serait-ce que.
Même déjà réagir. Ce droit de réponse, c'est quelque chose de très particulier dans la presse, mais ce droit de débattre.
Ce droit de débattre, utilisons-le, commentons, réagissons, sans agresser, sans. Voilà, donnons des avis différents, mais laissons plutôt le. Parler de la. Enfin, parlons plutôt qu'utiliser des armes pour dire qu'on n'est pas d'accord, quoi.
Voilà, bon, tout ça, ça va peut-être nous amener à considérer les choses différemment, peut-être à repenser. Certains nous ont appelé, nous, Ligue de l'enseignement, pour nous dire est-ce qu'on peut pas remettre en place les cercles Condorcet, est-ce qu'on peut pas remettre en place ces cercles de pensée, de réflexion, avec des apports, avec des intellectuels qui viennent parler de certaines choses. Peut-être que c'est nécessaire, peut-être qu'on a, on a trop laissé, on a abandonné le terrain fait de l'idéologie et de la pensée partagée. Alors peut-être c'est peut-être le moment d'y revenir. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. C'était très intéressant, c'était pluriel, c'était bien animé. On va se quitter avec l'agenda culturel pour la semaine voilà, qui arrive. Et notre prochain magazine sera dans 15 jours. Bonne semaine.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48 FM.
Votre agenda culturel du mardi 13 au lundi 19 janvier 2015. Mardi 13, du théâtre à la salle polyvalente de Langogne à 18h30 avec le spectacle J'arrive de la compagnie Théâtre pour Demême. Rencontre avec Olivier Hall qui nous présente le spectacle.
C'est du théâtre et de la marionnette qui tourne autour de l'enfant à naître, les questionnements philosophiques des comédiens à propos du voyage organique et métaphorique dans le ventre embarcation comme ils le nomment, tel que l'a imaginé l'auteur Jean Cagnard. C'est un spectacle de marionnettes plutôt cocasse et poétique. La parole appartient au nouveau-né. Il se pose des questions sur qu'est-ce que vivre, pourquoi doit-on mourir, d'où venons-nous. Voilà, c'est le point de vue du principal intéressé, c'est-à-dire le futur bébé.
Le spectacle sera donc joué à 18h30 pour un tarif de 8 euros et de 5 euros. C'est un spectacle tout public dès 3 ans. Le spectacle sera également joué jeudi 15 à l'Espace des Anges à 18h30 pour un tarif de 5 euros et ce sera proposé par la ville de Mende.
Mardi 13, du cirque au théâtre de Mende à 20h30 avec le spectacle Tout un monde. C'est un clown et son compte est bon. Hélène Ventura emmène le spectateur dans une histoire de Cendrillon pour le moins déglinguée, revue et même falsifiée par l'effronté. Son postulat. Elle n'a pas quitté le bal à minuit, elle est restée crânement sur place. Elle compte bien avant toute décision se risquer aux expériences les plus extravagantes. Le tarif est de 12 euros et 8 euros, c'est un spectacle tout public à partir de 10 ans et c'est organisé par la ville de Mende.
La Grande Vadrouille est aujourd'hui l'un des films les plus vus de l'histoire du cinéma français. Le Ciné-Club Mendois souhaitait fêter les 50 ans de ce film dont les scènes finales ont été tournées sur l'aérodrome de Mende en 1965. Une occasion de revoir ce grand classique sur grand écran. Rencontre avec Valérie Corral, présidente du Ciné-Club Mendois, qui nous parle de ce film.
Le Ciné-Club Mendois a voulu fêter les 120 ans du cinéma. Et pour cela, nous avons choisi La Grande Vadrouille, car il a été tourné il y a 50 ans sur l'aérodrome de Mende. Et il reste beaucoup de Mendois qui ont des souvenirs quand on se promène dans la rue. Beaucoup de personnes nous racontent les souvenirs quand ils ont croisé Bourville ou de Funès dans les rues, qui donnaient des dédicaces. Il y a plein d'anecdotes, donc si vous avez des souvenirs et que vous voulez redécouvrir le film sur grand écran, ben on vous attend ce jour-là.
Ce film sera projeté le mardi 13 janvier à 20h15.
Vendredi 16, du théâtre au ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apcher à 20h30 avec le spectacle Vive la mariée de la compagnie Tête en l'air. Quand la famille se réunit, c'est pour le meilleur et surtout pour le pire. Perrine et Jean-Philippe, gérants d'une boucherie low-cost, et Bérangère, artiste, se retrouvent pour célébrer le mariage de leur cousin dans la joie et la bonne humeur. Enfin, c'est ce qu'ils croient. De règlement de compte en grande révélation, les nerfs et les sentiments seront mis à rude épreuve. Bienvenue dans un mariage pas comme les autres. Ce sera pour un tarif de 20 euros, 15 euros et 12 euros. C'est un spectacle tout public des 8 ans proposé par le ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apcher.
Vendredi toujours, à la salle polyvalente de Marvejols à 20h30, du cirque avec off de la compagnie Kiaï. La compagnie Kiaï explore un cirque contemporain multidisciplinaire à la lisière de la danse, du cirque et du théâtre. Ces différentes formes d'expression se rencontrent, se bousculent et se nourrissent mutuellement pour créer une parole unique et singulière. Off est une création qui réunit autour d'un trampoline rond, une contorsionniste, un danseur hip-hop, un équilibriste, un acrobate, un clown et un parpaing. En s'inspirant librement du livre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau » d'Olivier Sacks, des artistes s'interrogent sur la communication des émotions par le corps. quand la parole n'est plus capable d'exprimer ce qui se joue à l'intérieur de soi, alors le corps prend le relais, se transforme de mille manières pour exprimer l'indicible, suscitant autant d'émotions ambivalentes entre violence, humour et tendresse. Un spectacle à 12, 8 et 5 euros, tout public dès 8 ans, organisé par le TMT et les Scènes Croisées de Lozère.
Samedi 17, à la salle polyvalente de Arzinc de Randon, du théâtre à 21h avec Une vie de con. Une comédie très rythmée sur le stress de la vie au boulot avec un chef hypochondriaque qui se retrouve coincé entre une consultante très entreprenante, sa maîtresse de plus en plus pressante et sa future ex-femme encore très demandeuse. Quand le client pot de colle et l'ami trop serviable s'en mêlent, les mensonges et quiproquos s'enchaînent. C'est un spectacle pour un public adulte proposé par le foyer rural de Arzinc de Randon et le théâtre amateur Mandois.
Dimanche 18, avec le Ciné-Théâtre de Saint-Chély à 16h15, du cinéma et un documentaire « La jeune fille à la perle ». Nouvellement restauré, le musée Moritzui aux Pays-Bas vient de rouvrir ses portes et accueille pour l'occasion l'enquête « La jeune fille à la perle » et autres trésors du musée, qui vous permettra de découvrir les nombreux secrets qui entourent Vermeer. Une séance à 6,80€ et 5,80€, une projection tout public dès 10 ans.
Dimanche toujours, au Théâtre de la Rantelle, de la danse à 17h, avec le spectacle sur un air de deux de la compagnie L'Alambic. Deux duos dansés sur des airs populaires. La compagnie de L'Alambic nous invite à revisiter les années 70 et 2000 à travers quelques chansons emblématiques. De Serge Gainsbourg à Loïc Lantoine, en passant par Brigitte Fontaine, Claude Nougaro, Étienne Dao, Charlotte Gainsbourg ou Bachung, cette intégrale est un voyage chorégraphique dans la société française de ces années jusqu'à nos jours. Un spectacle pour un tarif de 12€, 8€ et 5€, tout public à partir de 10 ans. C'est proposé par l'Hermine de Rien et les Scènes Croisées de Lozère. Bonne semaine culturelle à tous.